Gloire à Jésus. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, nous te remercions de ta présence dans ce lieu. Nous croyons de tout notre cœur que tu es ici, même si nous ne te voyons pas, nous le croyons. Et nous croyons aussi que tu n'es pas ici comme nous le sommes. Tu es ici pour guérir les malades, pour délivrer les captifs, pour pardonner les péchés, pour envoyer libres les opprimés. Nous croyons que tu es dans ce lieu pour faire ton œuvre et que toute pensée dans ce lieu soit captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus et que nous soyons tous renouvelés, restauré dans la présence de celui qui vit éternellement. Merci Seigneur Jésus de ta présence. Sois béni et glorifié. Amen. Amen. La bonne nouvelle pour nous ce soir, c'est que Jésus a pris nos infirmités. Alléluia. Il a pris nos infirmités. Et j'ai été voir dans le dictionnaire Larousse quelques définitions d'une infirmité ou de l'infirmité. Et il est marqué, une infirmité, ça peut être une altération définitive et grave. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Une infirmité, ça peut être un traumatisme, une paralysie ou une déficience. Une infirmité, c'est tout ce qui nous empêche d'avancer ou de marcher librement. Une infirmité est un obstacle à notre épanouissement. Une infirmité peut également être une situation de détresse dans notre vie, dans notre marche. Une infirmité, ça peut être une épreuve. Pour quelqu'un, peut-être, qui ne vient peut-être pas forcément du péché, mais une épreuve que Dieu permet dans nos vies. Une infirmité, ça peut également être, comme on l'a vu, une altération définitive et grave. Ça peut également être un état de privation de la présence de Dieu. Une infirmité, ça peut être un état de danger. Je ne sais pas dans quel groupe vous êtes ce soir. En tous les cas, j'aimerais commencer par ce verset qui dit « Béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Jésus-Christ est pour nous ce soir le Dieu des délivrances. » Et on peut remarquer qu'il est marqué « des délivrances ». Ça veut dire qu'il y a également plusieurs captivités. Et ça veut c'est surtout dire que Jésus-Christ tient dans ses mains la clé de toutes nos délivrances. C'est le psaume 68, versets 20 à 21. Mais j'aimerais justement qu'on voit dans la Bible un exemple, l'histoire d'un homme qui a fait l'expérience de voir son infirmité ôtée. Jésus est passé par là ce jour et il a pris son infirmité. Et j'aimerais que ce soir, on soit vraiment qu'on puisse le réaliser, que quelles que soient nos infirmités, peut-être les épreuves, c'est peut-être une véritable infirmité, c'est peut-être une maladie. Jésus a pris nos infirmités. Amen. Lisons ensemble dans Actes 3. Actes 3, verset 1er. Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il était environ 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme ?» Amen. Amen. J'aimerais tout d'abord qu'on voit ensemble la situation de détresse dans laquelle nous pouvons nous trouver ou nous retrouver. On a parlé d'épreuves, une situation de détresse, une infirmité. Gardons à l'esprit que Jésus a déjà pris nos infirmités. C'est déjà fait. Donc, c'est la base de notre message de ce soir. Jésus, c'est la pensée pour nous que Jésus a pris nos infirmités. Maintenant, il nous faut trouver le moyen de déposer nos infirmités à ses pieds ce soir. Amen. C'est le but de ce message. Il a pris nos infirmités. Donc, parlons donc maintenant des situations de détresse dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. Déjà des épreuves. Et quand on lit au verset 2, il est marqué qu'il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Dans l'épreuve, il y a deux pièges. Le premier piège, c'est d'avoir la tête baissée, comme cet homme. Il était assis, il était infirme, donc il était à terre, et il avait les yeux, l'aumône, il avait la tête comme ça, et la main tendue. Il avait donc les yeux tournés vers son épreuve, ou vers son infirmité. La deuxième chose, c'est qu'il avait la main tendue. La main tendue pas vers Dieu, mais vers les hommes, ceux qui passaient et repassaient. Et c'est le piège dans lequel nous pouvons nous retrouver quand nous dans l'épreuve. C'est de s'attendre à un homme, de s'attendre à un système social peut-être, ou à un système politique. Dans l'épreuve, il y a deux pièges. Et cet homme représente un homme qui est dans l'épreuve et qui a les yeux fixés sur la situation et la main tendue vers les hommes. En d'autres termes, la main est orientée vers le lieu d'où ne pourra pas venir la solution. Et Jésus, quand il, juste avant de partir, il va dire ceci aux disciples. Il va leur dire, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Dieu le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce n'est pas parce qu'on porte du fruit qu'on ne peut pas être éprouvé. Et l'épreuve, et j'ai été voir dans le dictionnaire, émonder signifie débarrasser certaines graines de leur tégument, de leur enveloppe. Et Dieu, et il y en a des enveloppes, et Dieu a besoin de nous dépouiller. Et c'est pour cela qu'il permet des fois qu'on passe par l'épreuve, pour pouvoir passer à l'étape suivante du plan, par exemple, qu'il aurait sur notre vie, il faut être prêt à tenir à l'étape suivante. Pour cela, il faut que tu enlèves une enveloppe. Et à chaque fois, il va falloir qu'il enlève une enveloppe. Et c'est pourquoi Jésus dit, leur parle, et juste après, il a dit, au verset 3, il dit, « Déjà vous êtes purs. » Jean 15, verset 2, verset 1 à 3. Il dit au verset 3, « Déjà vous êtes purs. » Ça veut dire que émondé, ce n'est pas parce qu'on n'est pas pur qu'on est émondé, non. Mais c'est parce qu'il faut qu'on porte encore plus de fruits. Et c'est aussi pour cela qu'il est bien d'accepter les épreuves que nous traversons et les traverser les yeux fixés sur Jésus, qui est notre espérance. Amen. Parce que Jésus a déjà pris nos infirmités et il a déjà pris toutes ses enveloppes. Il faut juste que nous nous laissions Dieu nous conduire dans l'épreuve, que nous soumettions à lui pour que ses enveloppes soient ôtées. Et ça demande également l'exercice de notre propre volonté. Le deuxième point d'infirmité que nous pouvons voir, justement, ça a été annoncé tout à l'heure, c'est qu'on peut être privé de la gloire de Dieu. C'est un état de danger dans lequel on peut se trouver. L'infirmité, c'est la privation de la présence de Dieu, c'est la privation du salut, c'est la condamnation. Et c'est l'image que cet homme à laquelle cet homme a fait penser. Il était assis à l'entrée du temple, mais il était assis dans les ténèbres. Il avait les yeux fixés sur son infirmité. Cet homme était assis, il était à terre, il était à l'écart. Il était assis dans les ténèbres. Il était assis dans la frustration. Et cet homme était à terre sous le joug du diable. Vous vous souvenez que Jésus a dit qu'il a vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Il est à terre, et il est à terre avec tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et il les tient à terre sous le joug, sous son joug. Le joug de la servitude, le joug de l'esclavage, le joug de la condamnation. Cet homme était à terre. Gardons à l'esprit que cet homme représente un homme sans Jésus. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il était à terre et il y avait comme une muraille entre les autres et lui-même. Ça nous rappelle la solitude de notre société, enfin, qu'on peut vivre dans la société. Il était à terre, mais il voyait les gens passer et repasser. Mais en réalité, il y avait comme une muraille entre lui-même et tout ce qui passait et repassait. Il était à terre, assis dans la frustration et la solitude. Il était à terre, assis dans le mépris et le rejet. Il était à terre, assis dans la détresse et l'angoisse. Assis dans la culpabilité, la condamnation. Il était à terre, assis dans la boue du péché et l'ombre de la mort. Cet homme était vraiment à terre. Et il demandait l'aumône. Un peu de paix. Peut-être que quelqu'un ce soir est venu pour avoir un peu de paix. Un peu de joie. Les chrétiens sont gentils, donc je vais à l'église, ça me fera pas de mal. Et vous êtes peut-être là pour avoir un peu de paix, un peu de joie, un peu d'amour. Je veux juste un peu. Il était dans les ténèbres. Il était à l'écart. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Alléluia. Le deuxième point, ce que je voulais justement relever avec nous ce soir, c'est que la solution ou la grâce de Dieu vient toujours au bon moment, toujours au temps convenable. Au verset premier, il est dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et le Saint-Esprit précise, il dit que c'était la 9e heure. Il était exactement 15 heures. Pierre et Jean avaient l'habitude d'aller au temple. Ils avaient l'habitude de passer et de repasser devant cet homme. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a retenu leur regard sur lui. Il est dit plus loin que Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui. Pourtant, ils avaient l'habitude de le voir. Mais ce jour-là, le Saint-Esprit a retenu leur attention sur lui. C'était la 9e heure. L'heure à laquelle Dieu envoie sa parole. Vous savez que Dieu travaille toujours avec sa parole. Toujours. Dans le psaume, je ne le cherchais pas, je le lis pour nous. Dans le psaume 103, verset 20, il est dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Même les anges qui sont puissants, tout très puissants, ne peuvent rien faire sans la parole de Dieu. Dieu envoie sa parole. Les enfants d'Israël, à l'époque où ils étaient sous le joug de l'esclavage, Dieu dit qu'il a entendu leur cri et il leur a envoyé Moïse. Mais en réalité, c'est sa parole qu'il a envoyée. Nous disons souvent que Moïse est le libérateur. Au fond, c'est la parole de Dieu qui les a libérés. Il fallait un porteur. Moïse aussi avait besoin d'une parole. Il avait reçu sa parole à lui. Il avait aussi une parole pour le peuple et il y avait aussi une parole pour Pharaon. Parce que Dieu travaille toujours avec sa parole. La parole libère. C'est pourquoi nous pouvons écouter sa parole ce soir, le cœur ouvert. Amen. Pharaon devait entendre une parole. La parole, comme Dieu lui-même a dit qu'il a endurci son cœur, il fallait qu'il entende une parole. Une parole qui allait faire l'œuvre de Dieu dans son cœur pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Il fallait que les enfants d'Israël entendent une parole de Dieu également pour qu'ils acceptent de suivre ce Moïse qui, ça faisait des années qu'il n'avait pas vu, 40 ans. Et il arrive comme ça, il leur demande de le suivre. Non, il fallait une parole de Dieu pour qu'ils acceptent de le suivre. Moïse, lui aussi, avait besoin d'une parole parce qu'il avait peur. Et surtout qu'il était devenu, il n'avait plus de force. Dieu travaille toujours avec sa parole. Et ce soir, sa parole pour nous ce soir, c'est que Jésus a pris nos infirmités. Juste croire cette parole et vous repartirez libre. Je vous le garantis. Par la grâce de Dieu, vous repartirez libre parce que c'est la parole pour nous ce soir. Et la parole de Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et il a donné la parole. Jésus est la parole faite chair. La Bible parle de la grâce et de la vérité qui sont venues, et elles sont venues par Jésus. Il est dit dans Jean 1, 14, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Si vous savez, si quelqu'un a besoin de la grâce de Dieu ce soir, elle y est. Vous pouvez la recevoir, la saisir. La grâce et la vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Mais pour la contempler, il faut d'abord recevoir la parole. Amen. La parole. Dieu a envoyé sa parole. Je vous invite à venir avec moi dans Ésaïe 53. Ce texte qui annonce justement la venue de la parole ou de Jésus-Christ. Ésaïe 53, verset 1er. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui croit que Jésus a pris ses infirmités? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Jésus a accepté de devenir faible pour représenter les faibles qui sortent d'une terre desséchée. Le verset suivant dit, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, comme le représentant d'une terre desséchée, d'une humanité corrompue par le péché, desséchée. Ça veut dire qu'elle était abreuvée et elle s'est desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ce qui attire nos regards, c'est ce qui brille dans le monde. La beauté dont il est ici, quand Jésus parle de roi, quand on parlait de roi à l'époque, ou de libérateur, on pensait à un homme fort, avec une lance, et qui montait un cheval. Ça peut attirer nos regards. Mais un roi qui se laisse crucifier, ça n'attire pas le regard. Il n'avait ni beauté, ni... On ne parle pas de la beauté physique ici. Il parle de la beauté qui est en rapport avec l'œuvre que Jésus a faite. Et il dit, après, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les conséquences du péché ne nous plaisent jamais. Et on ne le comprend qu'après, en général. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut simplement dire qu'il a pris nos souffrances. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos souffrances, il les a prises. Ça veut dire que le châtiment qui nous donne la paix est déjà tombé sur lui. Ça veut dire que nous pouvons recevoir la paix de Dieu ce soir. Parce que Jésus veut vous donner sa paix ce soir. Amen. La deuxième chose que j'aimerais qu'on voit ensemble ce soir, c'est l'avant-dernier point. Toujours dans ce texte dans Actes 3. C'est que le Seigneur nous invite à tous, nous invite à tourner nos regards vers lui. Il nous invite à tourner nos regards vers lui. Au verset 4, il a dit, « Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous. Lève, détourne tes yeux de ton infirmité et regarde-nous. » Je crois de tout mon cœur que c'était la première parole de Dieu pour lui. Et il pouvait garder les yeux fixés sur son problème, sur sa situation, sur son infirmité, sur sa perdition. Mais il est dit, qui les regardaient. Et Dieu nous invite à tourner nos regards vers Jésus. Et cet homme, il est dit au verset 5, qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Il ne les regardait pas juste pour voir qui lui parlait, mais il les a regardés attentivement. Et il s'attendait à recevoir quelque chose. Et c'est ce que Dieu veut ce soir. Il veut qu'on le regarde et qu'on s'attende à recevoir quelque chose. Surtout qu'on tourne nos regards vers lui. Jésus a pu dire, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venir à Jésus, il ne dit pas de quitter une position, il ne demande pas de le rejoindre au fond de la salle. Non, c'est une approche. Il dit, « Venez à moi. » Ça veut aussi dire, « Détournez vos yeux de vos situations et tournez-les vers moi. » Pour celui qui traverse une épreuve, détourne tes yeux de la situation et regarde-moi. Tourne tes yeux vers moi. Oriente ton regard vers moi. Et si vous ne connaissez pas Jésus, il vous demande ce soir de détourner votre cœur. De détourner votre cœur de la vie de détresse que vous vivez. Parce que sans Jésus, ce qui est sûr, c'est que la vie est une vie de détresse. Et il nous invite à détourner nos cœurs de cette vie et de l'ouvrir à lui. Venez à moi. Venez à moi par le moyen de la repentance et la conversion. Et dans le psaume 34, verset 6, psaume 34, verset 6, il est dit, quand on tourne vers lui les regards, voilà ce qui se passe, on est rayonnant de joie. Ça veut dire que si nous décidons ce soir de détourner nos regards de la situation pour les tourner vers Jésus, il nous remplira de joie. Pas une joie, mais une véritable joie. Quelque chose, une certaine assurance, stabilité dans le cœur. Le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient. Il regarde Pierre et Jean. Il avait l'habitude de recevoir un peu d'argent. Pierre avait l'habitude de passer, je ne sais pas, peut-être que une fois ou deux, Pierre lui avait donné une pièce d'argent. Mais ce jour-là, Pierre va lui dire, « Je n'ai ni or ni argent à te donner. » Ça ne veut pas dire que Pierre n'avait absolument rien sur son compte en banque, par exemple, en supposé qu'ils avaient une banque à l'époque. Ça veut dire qu'il n'avait pas de l'argent pour lui. Il avait quelque chose d'autre, supérieur à l'argent. Il dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. » Ils avaient une deuxième parole pour lui. Dieu nous invite à regarder à lui. Et parce qu'on regarde à lui et qu'on lui fait confiance, parce que le cœur est ouvert, Dieu peut agir dans nos cœurs et la parole peut vraiment rentrer dans le cœur et produire l'effet pour lequel Dieu l'a envoyé. Et la deuxième parole, l'effet de cette parole, l'impact, le fruit de cette parole ne dépendait plus de lui. Il avait fait sa part. Il avait tourné le regard vers lui. Il avait ouvert son cœur. Il s'attendait à recevoir quelque chose. C'est ce qu'on appelle la foi. Et voilà. Il fallait juste que la parole arrive et que la foi, maintenant, le sauve. Ce n'était pas mystique. C'est un processus de foi qui vient de la parole. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tant qu'il n'y a pas la parole, il n'y a pas la foi. C'est pourquoi Jésus veut vous donner une vie nouvelle. Si vous lui ouvrez votre cœur, une vie nouvelle, une vie de qualité supérieure, sans prétention. C'est une vie de qualité supérieure. Une vie de paix, une vie de joie. La Bible dit que la rivière de Dieu est pleine d'eau. une abondance de paix, une abondance de joie que le Seigneur donne à ceux qui viennent vers lui et qui le suivent. Une vie différente, une vie de qualité supérieure. Et si quelqu'un lutte avec ce que je dis, je donne un exemple. Vous avez aux États-Unis le chef des armées américaines. C'est le premier chef militaire au monde, puisque l'armée américaine est la plus grande armée au monde. Donc le chef des forces armées américaines, le chef des militaires du monde. Mais cet homme, s'il n'a pas Jésus dans son cœur, il ne peut pas aimer son ennemi. Tout puissant qu'il est, il est incapable. Mais si vous donnez votre cœur à Jésus ce soir, il vous donnera la capacité d'aimer vos ennemis. Et ça, c'est une puissance qui ne peut venir que d'en haut. Et c'est une qualité de vie supérieure. Et il y a d'autres exemples. La vie nouvelle, c'est la vie de Dieu. La vie qui vient directement du ciel. Et qui vient dans le cœur par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans nos cœurs. Amen. Le dernier point, c'est que Jésus veut vous donner des fondements solides. Au verset 7, il est dit, « Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. » Au même instant, ses chevilles devinrent fermes. Je ne sais quels sont les fondements sur lesquels vous avez bâti votre vie. Ou les fondements sur lesquels vous vous appuyez pour faire face à une situation. En tous les cas, s'il n'y a pas Jésus dans ces fondements, quand il n'y a pas Jésus dans les fondements, ce qu'on fait, c'est qu'on va de solution de détresse en solution de détresse. On trouve une solution qui nous sort de la situation, qui nous ramène dans un état dans lequel on trouve une situation de détresse. Et c'est ce que les gouvernements font. C'est pour ça qu'ils sont limités. Ils se critiquent tout le temps. Parce qu'ils n'ont pas la solution. Jésus, nous avons lu tout à l'heure qu'il est le Dieu des délivrances. C'est lui qui a les clés de la délivrance. Et il est dans ce lieu ce soir. Et il veut répondre à nos besoins. En tous les cas, pour ceux qui acceptent de tourner leur regard vers lui et d'ouvrir leur cœur à Jésus. Et le Seigneur veut te prendre par la main, te faire lever et te donner des fondements solides parce qu'il a le pouvoir de te guérir là où tu souffres ce soir. Quelle que soit la souffrance. Parce qu'il a déjà pris, n'oublions pas, nos infirmités. Après, c'est chacun qui voit. Chacun se le voit. Soit je décide de rentrer chez moi avec ma détresse, avec mon infirmité, soit je le dépose au pied du Seigneur, simplement. Et pour terminer, j'aimerais qu'on lise ensemble le texte de Jacques, Jacques 1, verset 12. Pour quelqu'un peut-être qui traverse une épreuve ce soir, ce texte de Jacques 1, verset 12, où il est dit ceci. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme ou la femme qui supporte patiemment la tentation. Dans le texte original, c'est l'épreuve. Pourquoi ? Parce que vous allez voir la suite. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Pas ceux que le Seigneur aime, mais ceux qui aiment le Seigneur et qui supportent pas de façon impatiente. Parce que c'est vrai que dans l'épreuve, on veut en sortir rapidement. Mais Dieu nous dit que si nous voulons être heureux, il nous dit supporter patiemment l'épreuve. Supporter patiemment l'épreuve. Parce qu'il recevra la couronne de vie. La couronne, c'est pas seulement quand Jésus reviendra. Non, non. C'est une récompense qui peut être une plus de paix, plus de stabilité, plus de fruits, comme Jésus l'a dit, pour qu'on porte encore plus de fruits pour lui. Il dit « Heureux l'homme, heureuse la femme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Tournons nos regards vers lui. Alléluia. Et lui, il saura agir. Cet homme, il ne savait pas ce qui allait se passer. Mais il avait son cœur ouvert. Et le miracle s'est produit. Et si nous avons la même approche, Dieu, certainement, il répondra à notre requête, à nos besoins, puisqu'il est au courant, il est plus au courant que nous de notre situation. Et dans Proverbe 21, lisons-le ensemble pour terminer. Proverbe 21, verset 31. Peut-être que vous êtes au milieu de nous et vous vous dites, oui, mais il y a les solutions, il y a ceci, j'ai ma situation, j'ai fait ceci, j'ai pris telle disposition, j'ai été voir le reste, tel conseiller social, etc. J'ai pris les dispositions, voilà, il faut bien trouver une solution. La société, on a tout prévu, il y a les médecins, sachant que les médecins aussi sont limités face à certaines maladies. Mais ce verset nous dit que le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Peut-être que vous avez tout préparé pour faire face à cette situation. D'un point de vue logique, d'un point de vue naturel, d'un point de vue social, raisonnement, tout, bien préparé, bien préparé, comme un chef de guerre qui est prêt et qui sait que la bataille, normalement, devrait la gagner. Mais le verset suivant nous dit quelque chose. Une victoire, ce n'est pas la délivrance. La vraie délivrance, elle appartient à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi il est là ce soir. Il est là pour nous délivrer, pour vous délivrer si vous ne connaissez pas encore le Seigneur. Et il vous invite juste à venir à lui. Simplement. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Ouvrir son cœur à Jésus. Comme on ouvre son cœur à quelqu'un, simplement. Voilà, je suis limité, cette situation me dépasse. Mais Seigneur, je t'ouvre mon cœur et je répands mon cœur devant le Seigneur. Et je m'attends à recevoir quelque chose. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Venez à lui maintenant, Jésus-Christ vous attend. Alléluia, fermons les yeux et laissons le Seigneur agir dans nos vies. Laissons le Seigneur agir dans nos vies. L'apôtre Pierre va leur dire quelque chose. Hein, voilà, il va leur dire repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Dieu a prévu ce temps présent. L'a prévu pour un rafraîchissement pour chacun d'entre nous ce soir. Merci Seigneur Jésus de ta présence. Oh, nous savons que quand tu es au milieu de nous, tu agis toujours dans les cœurs. Aussi nous te faisons confiance et par avance nous te remercions parce que tu es celui qui est venu et qui a pris nos infirmités, qui nous a délivrés, qui nous a guérir. Et tu veux guérir les cœurs brisés ce soir. Tu veux délivrer les captifs ce soir. Et tu veux également pardonner les péchés. Tu veux renvoyer libres les opprimés. Seigneur Jésus, accomplis ton œuvre. Et aide peut-être quelqu'un qui lutte à ouvrir son cœur pour qu'il puisse repartir de ce lieu avec ta paix dans son cœur. Merci Seigneur pour ce que tu as fait et nous voulons nous réjouir avec toi parce que tu es le Dieu qui est fidèle et tu t'appelles fidèle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Jésus.